Eh bien, nous y voilà au pied du mur qui n'est pas encore tombé. Et non, il ne chantait pas dans ce titre, mais c'est bien lui qui l'a signé, David Bowie. Speed of Life, c'est le morceau par lequel démarrait son album Low, sorti début 1977, le premier de ce qu'on a appelé sa, entre guillemets, trilogie berlinoise, de façon assez abusive d'ailleurs, puisque en fait, ce disque a été réalisé en grande partie en France, au studio du château d'Hérouville dans le Val d'Oise. Enfin, c'est une manière de dire que David Bowie a été le premier à être modelé en profondeur par les sons et la sensibilité d'un certain rock allemand aussi froid que majestueux et oppressant. Dans Low, un album enregistré en étroite collaboration avec Brian Eno, David Bowie de fait chante assez peu. C'est un enregistrement qui est dominé par de longues plages instrumentales et on y détecte deux influences prépondérantes. Celle du groupe Harmonia, qui a été l'auteur entre 73 et 76 de trois albums qui, avec ceux de Kraftwerk, ont posé les bases d'un nouveau son, un son électronique, oppressant et répétitif, annonciateur de ce qu'on a appelé l'ambient, mais aussi le rock dit industriel. Et puis, il y a une deuxième influence, celle du groupe de Cologne, Can, le premier groupe à pressentir que cet équilibre étrange entre des rythmes funk, syncopés et dansants, et une certaine dureté mécanique serait à la source d'un nouveau courant qu'on désigne aujourd'hui comme électropop. Alors des groupes comme Can, Kloster et Kraftwerk, hein, ce dernier le plus populaire, hein, l'inventeur d'une variété 100% électronique, ont eu une influence immense sur la musique de ces années transitoires, ces années ambiguës qu'ont été 75, 76, 77, qui ont vu la musique dite progressive glisser vers les rythmes martiaux et glacés de l'après-punk. Alors que le punk n'était pas encore arrivé, mais c'était comme un pressentiment. Une façon d'évoquer le sentiment d'aliénation propre aux grandes villes modernes, dont Berlin-Ouest était alors un symbole, bulle fragile de liberté et d'expérimentation au cœur du territoire gelé de l'Allemagne de l'Est, la RDA. Le premier donc à comprendre que c'est en Allemagne, et particulièrement à Berlin-Ouest, qu'avait lieu cette mutation musicale, fut l'anglais Brian Eno. C'est lui qui a fait découvrir toute cette musique à David Bowie. Et puis il y a un autre groupe, méconnu du grand public, qui a également fortement impressionné Eno, c'était Neu, Neu, N-E-U, comme nouveau en allemand. Le langage musical de ce groupe était simple, comme réduit à l'essentiel. Le batteur Klaus Dinger avait une frappe métronomique, la puissance presque inquiétante. Il faut dire qu'il avait pris l'habitude de cogner avec méthode et régularité en travaillant aux côtés de son père qui était menuisier. Et il y avait dans Neu un guitariste du nom de Michael Rotter, qui avait créé ce groupe dans la ville de Düsseldorf, dans la Ruhr industrielle, l'ouest, entre Bonn et Cologne. C'est de là que venait aussi Kraftwerk. Eh bien, Rotter avait fait un bref passage au sein de Kraftwerk et il s'était parallèlement uni aux deux fondateurs du groupe Kloster, Möbius et Rödelius, afin de former un trio du nom de Harmonia, je vous en parlais. Alors, Rotter avait suivi un parcours assez singulier. Il avait une famille qui venait de Hambourg, mais il avait vécu un temps à Manchester, en Angleterre, avant d'habiter un temps à Karachi, au Pakistan. Alors, en 76, Harmonia a commencé à enregistrer un album qui est resté inachevé en collaboration avec Brian Eno. Et Eno a travaillé étroitement avec les deux fondateurs de Kloster et d'Harmonia, Möbius et Rödelius. Il a même signé deux albums avec eux. Le titre que je vous propose à présent est signé Harmonia, il s'appelle Dino, il remonte à l'année 74 et on peut l'entendre dans une compilation signée Hans Joachim Rödelius qui s'appelle Works et qui réunit ses meilleurs enregistrements réalisés entre 68 et 2005. Auf dem Schwarzen Kanal, sur le canal noir, un titre signé en 1980 par Konrad Schnitzler, un musicien qui a joué un rôle de premier plan dans la naissance de ce courant né en Allemagne et qui a convergé à Berlin-Ouest à la fin des années 70, courant auquel on consacre le premier Very Good Trip d'une série dévolue à Berlin sur France Inter tout au long de cette semaine. Alors un musicien intéressant, ce Schnitzler, originaire de Düsseldorf, qui fut vraiment la pépinière de toute cette famille musicale, ce violoniste et violoncelliste de formation fut le cofondateur à Berlin de Tangerine Dream. Sûrement ça dit quelque chose aux plus âgés d'entre vous. C'est un groupe qui a été le pionnier d'une musique entièrement réalisée au moyen de synthétiseurs analogiques qui, à l'époque, étaient volumineux comme des armoires normandes et qu'on mettait des semaines, sinon des mois, à assembler. Tangerine Dream, créé par un musicien qui s'appelait Edgar Froese, fut à la source de ce qu'on a pu appeler la musique cosmique ou planante. C'est un peu la préhistoire de tout ça. D'ailleurs, il y a un autre groupe qui a été déterminant dans la naissance de ce courant, un autre groupe berlinois. On a pu d'ailleurs lui attribuer la naissance de la musique dite New Age. C'était Ashra Temple, animé par Manuel Götzsching et Klaus Schulze, ce dernier également cofondateur de Tangerine Dream. Tout comme d'ailleurs Konrad Schnitzler. En fait, on a l'impression que c'est vraiment une famille extrêmement, enfin très étroitement liée. Alors de retour à Düsseldorf, Konrad Schnitzler a suivi, d'ailleurs c'est intéressant à noter, l'enseignement à la Kunstakademie du sculpteur Joseph Beuys, un des plus grands créateurs et performeurs de l'art d'après-guerre. Il a fondé, Schnitzler, le groupe Kloster avec Möbius et Rodelius, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, il a suivi ensuite une carrière en solo, restée underground. Alors, c'est curieux, il se produisait parfois grimé comme un personnage inquiétant de clown austère qu'on croirait sorti du film muet expressionniste « Le cabinet du docteur Caligari ». Pour revenir à Brian Eno, qui a donc découvert tout ça et cristallisé toute cette connaissance, voici un de ses sommets. Il a publié un de ses plus beaux enregistrements en 77, c'était l'album Before and After Science, où l'on trouve cette chanson, un de ses classiques qu'il a composé et interprété avec deux de ses collaborateurs berlinois présents au clavier, Dieter Möbius et Hans-Joachim Rödelius, alias Kloster et puis Harmonia, By This River.
stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came.
Vertigo Trip sur France Inter.
La Düsseldorf, c'était le nom du groupe ainsi que de la chanson, ça remonte à l'année 76. Alors La Düsseldorf, c'est un groupe qu'a créé au milieu des années 70 Klaus Dinger, le fondateur du groupe Neu, dont je vous parlais tout à l'heure. Il l'a fondé avec son frère cadet Thomas. Neu, qui a été créé à Düsseldorf comme Kraftwerk, a été au moins aussi influent, comme je vous le disais, même si sa durée de vie a été bien plus limitée et qu'il n'est guère connu du grand public. Parmi ceux qui ont célébré la grandeur de Neu et lui ont rendu hommage, on peut citer Steve Shelley du groupe Sonic Youth et puis John Frusciante, le guitariste des Red Hot Chili Peppers. Ils se sont l'un et l'autre produits sur scène en compagnie de Michael Rotter, le guitariste de Neu, donc au cours des 15 dernières années, sans mentionner des groupes divers et variés comme Primal Scream, Oasis et LCD Sound System, qui ont participé en 2009 à Brand Neu. C'est un album de reprise exclusivement du groupe Neu. Alors, comme je vous l'ai dit, il ne s'agirait pas cette semaine de n'écouter que des musiciens allemands ou même berlinois, mais en particulier, ce sera l'occasion d'éclairer la façon dont les sons et les ambiances de ces musiques bien particulières ont pu apporter une sève nouvelle à des musiciens qui sentaient qu'un autre vent se levait et soufflait à l'Est. Alors le premier, je vous l'ai dit, à faire le voyage et à apprendre auprès de ces musiciens fut Brian Eno. Eno a ensuite servi de catalyseur en initiant à son tour David Bowie, qui toute sa vie a cherché à prendre de l'avance sur les autres. Eno a entraîné Bowie à Berlin et à son tour, Bowie a fait venir là-bas Iggy Pop. Et oui, l'histoire mérite d'ailleurs d'être évoquée brièvement. Il faut savoir que Iggy, en 75, est au fond du trou, au fond de la déchéance. Il vit à Los Angeles avec des prostituées. Il y a bien Ray Manzarek, le clavier des Doors, qui projette de travailler avec lui, mais l'état mental, enfin la santé du chanteur, ne le permet pas. Il se fait alors volontairement interner dans un asile psychiatrique pour se désintoxiquer. Et providentiellement, David Bowie, qui est alors présent en Californie pour promouvoir son nouvel album de 76, Station to Station, tend la main une seconde fois à Iggy Pop, la première c'était en 72, et lui propose de travailler à une chanson avec lui. Ce sera l'occasion d'une renaissance. Iggy dira avoir appris auprès de Bowie le professionnalisme et, je cite, le sens de son auto-préservation. Il va suivre David Bowie tout au long de sa tournée mondiale. Il va découvrir l'Europe, et en particulier Berlin, Berlin-Ouest, qui l'enthousiasme, et près de Paris, hein, au studio du Château d'Hérouville, je vous en parlais, là où Bowie avait entamé l'enregistrement de son album Low, eh bien, il va entamer également la réalisation d'un album pour Iggy, avant de lui proposer d'être pianiste sur sa tournée. Les séances d'enregistrement de l'album The Idiot, qui paraîtra en 77, le premier album solo de Iggy Pop, se poursuivent à Munich, puis au studio Hansa, dit Hansa by the Wall, hein, près du mur, dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin-Ouest, un studio qui abrite une grande salle de concert à la résonance caverneuse de réputation légendaire. Les deux hommes, Iggy et David Bowie, s'y installent, fascinés par l'ambiance de liberté qui règne à Berlin-Ouest. Et un des fruits de cette collaboration, bah, ce sera ce titre, bah, vous savez ce que c'est.
Machine. We're see people, brand new people. There's something to see. Night clubbing, we're night clubbing. Oh, isn't it wild?
I wish you could swim. will keep us together. We can beat them forever.
Heroes de David Bowie en 1977, tout le monde ou presque connaît ça, le sommet de sa collaboration avec Brian Eno, dont on reconnaît la patte partout, les textures sonores, les harmonies, l'usage des chœurs à l'unisson, enfin c'est tout Eno cette chanson. C'est une chanson qui a eu beaucoup plus de succès tout autour du monde quand elle a été massivement rediffusée en 2016 à la mort du chanteur que à sa sortie en 1977, totalement ignorée en France, où de toute façon David Bowie n'a pas eu un tube, un vrai tube avant Let's Dance en 83, exception faite peut-être de Ashes to Ashes en 1980, un succès oui, mais enfin pas dans les mêmes proportions. Alors, beaucoup le savent, Heroes est censé évoquer un couple uni miraculeusement, l'un vit à Berlin-Ouest, l'autre à Berlin-Est, et bien sûr il y a le mur qui les sépare, alors leur réunion est un défi, un rêve, un fantasme, ils sont des héros juste pour une journée. Alors la légende veut que David Bowie ait regardé par la fenêtre du studio et vu au loin le réalisateur artistique Tony Visconti embrasser contre le mur la choriste avec laquelle il avait une liaison. Et que cette image lui aurait donné l'idée du thème de la chanson. Or, Visconti a ensuite raconté que cette histoire était absolument fausse, qu'elle était née dans l'imagination de Bowie, qu'il n'avait jamais embrassé personne ce jour-là, que que ça pouvait pas du tout être lui. Un démenti qui a peut-être pour origine une raison assez triviale, c'est que Visconti était alors marié à la chanteuse anglaise Mary Hopkins et il n'avait certainement pas intérêt à ce que cette histoire de baiser avec la choriste soit vraie. Alors bon, tout ça n'a un intérêt que très anecdotique. En revanche, ce qui en a un beaucoup plus grand, c'est le beau livre que Jérôme Soligny s'apprête à publier sur David Bowie chez Gallimard, Rainbow Man, qui est centré sur les années 1967 à 1980. Soligny a fait un travail très fouillé pour démêler le mythe de la réalité, l'exactitude de la fabulation. Il a interrogé plus de 300 personnes qui ont été mêlées de près ou de loin au travail de David Bowie. Amis, bien sûr, dont Iggy Pop, accompagnateurs jusqu'aux photographes et aux graphistes. Alors j'imagine qu'il a été confronté aux mêmes difficultés que je peux connaître, hein, les témoins des événements qui ne se rappellent pas les mêmes choses et qui se souviennent parfois de détails parfaitement contradictoires. Il faut parfois être juge d'instruction ou enquêteur de police dans ces affaires. Enfin bon, même les enjeux sont, Dieu merci, moins graves. Alors j'ai pas encore eu le livre entre les mains, mais ça semble être l'enquête la plus approfondie jamais réalisée sur David Bowie que Soligny a bien connu. Alors on ne pouvait pas évoquer Berlin sans rappeler l'album le plus ambitieux que Lou Reed a réalisé au début de sa carrière solo, un album qui s'appelait Berlin, voilà. C'était encore en 73 la période des opéras rock, des grands projets ambitieux où les jeunes musiciens liés au rock et plus largement à la pop musique, comme on disait alors en France, hein, puis la musique dite progressive, voilà, tous ces musiciens voulaient aborder les grandes questions en enregistrant comme ça des albums à thème, le cosmos, la spiritualité, l'histoire, l'utopie, les légendes, la politique, l'amour universel, enfin, tout ce que vous voudrez. Alors Lou Reed, lui, c'était différent. C'était le contexte, c'est sûr, mais lui, il était à rebours de ça, il voulait raconter une histoire qui s'apparentait plus à un drame romantique ou au scénario d'un film tragique. Une histoire qui se passait à Berlin, enfin à son époque, et qui s'appelle donc, Berlin. D'ailleurs, il y avait une chanson de son premier album solo en 71 qui figure dans une version réenregistrée dans cet album à thème, et ça annonçait déjà les choses. C'était prévu à l'origine comme un double album, et Lou Reed l'imaginait comme, je le cite, un film pour les oreilles. Donc cet enregistrement était censé raconter la déchéance extrême d'un couple drogué, dépressif et suicidaire vivant à Berlin-Ouest. Une suite de chansons donc qui racontait leur destin tragique. Le disque a été enregistré à Londres avec des musiciens de premier plan comme les frères Michael et Randy Brecker, hein, respectivement saxophonistes et trompettistes. Et c'est un récit musical qui, comme je vous dis, allait à rebours des fantasmagories qui fournissaient la trame des opéras rock de la période. Berlin de Lou Reed, c'est une histoire sordide et réaliste, sans espoir ni rédemption, dont les thèmes très pessimistes annoncent ceux du punk rock à venir, même si musicalement on en est encore très loin. Dans la chanson-titre Berlin, on est plutôt dans une ambiance de cabaret berlinois, comme en témoigne cet enregistrement qu'en a donné Lou Reed en 2008, donc bien plus tard, dans une salle de Brooklyn, hein, St. Anne's Warehouse. C'est un enregistrement qu'on peut juger supérieur à l'original de 73, qu'on retrouvera quant à lui enchaîné pour deux sommets qui concluront donc le premier épisode de cette série de Very Good Trip sur Berlin. Il y aura donc d'abord Berlin dans la version de 2008, puis Caroline Says numéro 2, suivi de The Kids.
You were 5'10" tall. It was very nice. Candlelight and Duvernay on ice. a small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice. Oh, honey, it was paradise. As she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eye, you ought to learn more about yourself. Think more than just I. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? Caroline says, as she gets up from the floor, you can hit me all you want to, but I don't love you anymore. Caroline says, while biting her lip, life is meant to be more than this, and this is a bum trip. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? She put her fist through the window pane. Such a funny feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska.
Vérigo Trip sur France Inter, Mishka Asayasachi.
my heart is overflowing anyway. I'm just a tired man. No words to say, but since she lost her daughters, it's her eyes that fill with water, and I am much happier this way.
Et voilà, c'est avec cette longue séquence consacrée à l'album Berlin de Lou Reed, qui s'achevait avec le titre The Kids, qu'on se quitte pour ce soir. On restera dans l'ambiance musicale de Berlin encore demain et jusqu'à jeudi soir. Je remercie Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Julien Dumont à la technique, Zora Ben Smiley et Romain Couturier. Et tout de suite après les informations, eh bien vous retrouverez Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. À demain.